Voici déjà un mois que nous vivons cette période de confinement. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver par médias interposés pour vivre le culte ensemble. Frères et sœurs en Christ, recevez de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la grâce, l'amour et la paix. Il y a quelques semaines à Pâques, nous avons célébré la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Nous savons que cette victoire nous a ouvert un chemin de vie tout neuf et nous nous sommes engagés sur ce chemin. Pourtant, il y a le danger de l'habitude. On est si vite repris par les soucis et très vite, on se demande parfois, est-ce bien vrai tout ça? Frères et sœurs en Christ, ce qui fait la joie de ce dimanche, c'est que le Seigneur, le ressuscité, tel un berger, vient lui-même nous rejoindre sur nos chemins. Il marche à nos côtés, partage nos inquiétudes et nos questions. Il nous conduit vers des verts pâturages. Sa parole éclaire notre route. Dans la confiance, nous chantons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh, j'aime 970.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme. Sans cesse et jusqu'à son retour, mon âme chante son amour. Tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai.
Prions et demandons au Seigneur de nous venir en aide ce matin. Dieu notre Père, toi dont la puissance est manifestée en ce jour-là avec éclat en ressuscitant ton Fils d'entre les morts, toi notre berger, dispose nos cœurs à te louer et à te bénir pour un si grand salut nous offert. Accorde-nous la grâce de nous ouvrir au quotidien à l'expérience de la résurrection. Tu as promis de ne jamais nous abandonner, car tu es le bon berger, nous t'en remercions infiniment. Si par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as arraché à la mort son aiguillon, tu nous donnes dès cette vie mortelle l'espérance d'une vie immortelle. Puisse ton esprit nous affermir dans la foi au ressuscité, et que par-delà les aléas de la vie, puisses-tu nous accorder de vivre chaque jour l'expérience de la résurrection. À toi seul appartiennent la gloire, la puissance et les honneurs pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, avons-nous affirmé d'emblée en commençant ce culte. En réalité, nous vivons l'expérience des soins qu'il nous prodigue. Par exemple, quand nous sommes en danger ou quand nous sommes tout simplement perturbés, nous l'appelons au secours et lui ne manque pas de nous répondre. Voici un extrait du psaume 16 dont nous nous inspirons pour louer le Seigneur et que nous compléterons par deux cantiques que nous chanterons à la suite. Psaume 16. Ô Dieu, garde-moi. J'ai cherché en toi mon refuge. En toi j'ai mis mon espérance. Je dis au Seigneur, tu es mon maître et mon Seigneur. Tout mon bonheur réside en toi. Le Seigneur est ma part et la coupe où je bois. Il est mon unique héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille et qui me guide. Il m'avertit même la nuit. Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur. Il est toujours à mes côtés. Puisqu'il est près de moi, je ne serai pas ébranlé. Je ne chancellerai jamais. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Et mon corps lui-même repose. Dans la paix, la sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton ami, ton serviteur, doive subir la corruption. Mais tu me montreras le chemin qui mène à la vie, où l'âme est rassasiée de joie. Face à face avec toi, on goûte des joies sans mesure. Un bonheur qui n'en finit pas. Amen. Et là, je vous invite à chanter ensemble. Deux cantiques à la suite. En Jésus seul, j'aime, 1004. Et juste après, il est exalté, j'aime, 352.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant.
l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur s'éteint. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, par ce qui m'a sauvé. Jusqu'à la croix il célébrait, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis.
Seigneur, sa vérité.
Nous avons l'habitude, pendant ce temps, de prendre quelques minutes de prière libre. Mais là où vous êtes, vous pouvez le faire. Juste quelques instants. Il est vrai que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre bon berger. Il nous arrive encore cependant d'avoir des lourdeurs qui ralentissent notre marche dans cette nouveauté de vie à laquelle le ressuscité nous invite. Souvent, ce n'est pas la bonne volonté qui manque, mais nous nous rendons tout simplement compte que nous sommes impuissant parfois. C'est pourquoi nous appelons le Seigneur au secours. Nous nous écrions comme les femmes qui sont allées au tombeau, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Prions pour demander au Seigneur toute son aide dans notre marche avec lui. Seigneur, en nous demeurent des pierres trop lourdes à rouler, des pierres de rancune, d'orgueil, de convoitise et d'incrédulité. Elles ferment le tombeau de nos blessures secrètes, les cavernes obscures de nos souffrances cachées. S'il est vrai qu'au matin de Pâques, la pierre a été roulée, viens maintenant ôter la pierre qui ferme notre cœur. Viens rouler la pierre de nos tombeaux pour que la lumière, à toi, la vraie lumière, transperce nos obscurités, que ton souffle balaye nos inquiétudes et nos timidités. Viens rouler la pierre de nos peurs, afin que notre esprit s'ouvre à la confiance et à la foi. Viens rouler la pierre de nos indifférences, afin que notre cœur s'élargisse à l'accueil et à l'amour du prochain. Puisse le Saint-Esprit libérer en nous la puissance de résurrection pour que nous naissions à une vie nouvelle. Nous te prions, Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et maintenant, je vous invite à prolonger notre prière par le cantique « Pardon, Seigneur, pardon, j'aime 642 ». Thank you.
changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous.
Lorsque nous reconnaissons nos fautes, Dieu nous montre sa miséricorde. L'esprit du vivant ranime notre espérance. Sa parole éclaire notre route. Nous pouvons alors aller à la rencontre de nos frères, partager avec eux notre émerveillement pour celui qui nous libère de nos craintes et nous conduit au partage de la vie éternelle. Que toute la gloire revienne à Dieu notre Père, qui est prêt à nous pardonner et à nous redonner l'occasion de recommencer à nouveau notre vie. Amen. Nous allons, par l'intermédiaire de David, adresser un message aux enfants et prier pour eux par la suite. Écoutons.
Les évangiles nous racontent comment Jésus enseignait. Ainsi, on voit qu'il se servait souvent de paraboles, de petites histoires. L'évangile de Matthieu, le chapitre 15, les versets 10 à 11, évoque une des paraboles que Jésus a racontées en public. Alors, je ne vais pas vous la raconter, mais je vais plutôt vous dire ce qu'elle a occasionné et comment elle a été reçue. L'évangile explique qu'après que Jésus l'a prononcée, ses disciples sont venus le trouver et lui ont dit que sa parabole a été une cause de chute pour les pharisiens. Autrement dit, l'enseignement que Jésus a voulu transmettre grâce à elle avait choqué les pharisiens au point qu'ils n'avaient pas été capables d'entendre l'enseignement de Jésus. Or, les pharisiens étaient une classe de personnes très importantes à l'époque. Ils faisaient partie de ceux qui dirigeaient le peuple par leurs enseignements. Ils étaient considérés comme ceux qui connaissaient très bien la Bible et qui savaient expliquer comment l'observer, comment faire tout ce qui se trouve à l'intérieur, afin d'être proche de Dieu. Par leur étude de la Bible, les pharisiens auraient donc dû être les premiers à reconnaître Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu, et à approuver son enseignement. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, ils furent de ceux qui cherchèrent à le tuer. C'est pourquoi, en parlant d'eux, Jésus dit à ses disciples, au verset 14 du même chapitre, « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Cela m'amène à vous raconter l'histoire qui suit. Dans la ville très animée de New York, une voiture écrasa deux piétons qui avaient tenté de traverser une rue en bravant toutes les règles de circulation. Ils s'étaient avancés en plein milieu de la rue alors que le petit bonhomme du feu de signalisation était rouge. Comme quoi, il faut toujours faire attention avant de traverser une rue. Quand on releva les personnes, on eut la surprise de voir que tous deux étaient aveugles. Des dépositions de témoins ont permis de comprendre ce qui s'était passé. L'un des aveugles s'était tenu au bord du trottoir, attendant que quelqu'un vienne l'aider à traverser. Il tendait le bras. C'est alors que l'autre aveugle était arrivé à côté de lui. Il lui avait saisi le bras, croyant avoir affaire à quelqu'un qui voyait, et l'autre avait pensé la même chose. C'est ainsi que tous deux se sont mis à traverser la rue sans rien voir. Et l'inévitable était arrivé. Une voiture leur est rentrée dedans. En vous racontant cette histoire, je voulais faire un parallèle entre ce que Jésus a dit des pharisiens, que c'était des aveugles conducteurs d'aveugles, et ce qui s'est passé avec les deux aveugles de mon histoire. Les pharisiens pensaient être capables de conduire le peuple vers Dieu à partir de leur enseignement, alors que pourtant, ils n'avaient pas compris que Jésus était le Messie que la Bible annonçait. Finalement, à travers leur discours, les pharisiens éloignaient le peuple de Dieu plutôt que de l'en approcher. À travers ce que je vous ai partagé, je voulais encourager chacun à ouvrir son cœur à Jésus, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je voulais vous dire aussi que dans la Bible, il y a parfois des paroles difficiles à comprendre, des paroles qui nous échappent, des paroles pour lesquelles on aimerait plutôt fermer nos oreilles. Mais plutôt que de faire cela, il nous faut suivre l'exemple des disciples, qui eux non plus n'avaient pas compris l'histoire de Jésus tout d'abord, mais qui, au lieu de se boucher les oreilles, ont demandé à Jésus une explication. Demander à Dieu de nous éclairer, c'est finalement l'attitude que nous devons avoir à chaque fois que nous ouvrons notre Bible et que nous voulons nous mettre à l'écoute de sa parole, car nous avons besoin de son aide pour bien la comprendre. Je vous invite à la prière.
Les enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Alors, prions. Seigneur Jésus, nous te prions de nous aider à comprendre ta parole. Par ton Saint-Esprit, viens souffler sur nos oreilles pour que nous entendions ce que tu veux nous dire. Viens souffler sur nos yeux pour que nous voyions ce que tu veux nous montrer. Viens souffler sur notre cœur pour que nous comprenions combien tu nous aimes. Aide-nous à ne pas nous enfermer dans nos propres raisonnements sans s'appuyer sur toi, mais au contraire à toujours venir te demander ton aide avec confiance. Amen.
Merci à David pour cette histoire pour les enfants. Maintenant, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu et à la prédication. Dans un premier temps, nous prierons, ensuite nous lirons le passage qui se trouve dans Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Seigneur notre Dieu, au moment où nous allons ouvrir ta parole, nous voulons nous placer devant toi, afin que nos oreilles soient disponibles à l'écoute de ta parole, notre cœur puisse recevoir ce que tu as à nous dire, et que par notre intelligence nous soyons prêts à mettre en pratique ce que tu nous auras enseigné. Veuille maintenant, par ton esprit, ouvrir nos cœurs à ta parole. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.
Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, De quoi parlez-vous, marchand, pour avoir l'air si triste ? L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui dit : Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de nos apôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux que tous les prophètes ont dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain.
Je vous invite à chanter Esprit Saint.
Rien n'est plus précieux, rien n'a plus d'importance que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance dans ta présence. J'ai vu et goûté ton amour si parfait, tu m'as délivré et ma vie a pris sens dans ta présence. Sois le bienvenu au Saint-Esprit, remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire de nos cœurs, remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur. Sois le bienvenu au Saint-Esprit, remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi, de ta présence, Seigneur, de ta présence, ô Saint-Esprit.
un chemin de Pâques en quatre étapes. Un chemin de Pâques en quatre étapes. Tel est le thème que je vous propose ce matin, sur lequel nous allons méditer. Frères et sœurs en Christ, Pâques demeure un événement central dans la foi chrétienne. Car sans la résurrection de Jésus, dit l'apôtre Paul, toute prédication est vaine. Notre foi aussi est vaine. Le christianisme serait alors constitué de faux témoins à l'égard de Dieu. Il serait en train de mentir au monde que Dieu a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'aurait pas fait. Pire encore, nous serions encore dans nos péchés et ceux qui sont morts en Christ seraient perdus. Mais en réalité, Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est un événement objectif et historique indéniable. La foi chrétienne est donc fondée sur du solide. Outre ce fait objectif, la résurrection est aussi une expérience, un vécu, dont les bénéficiaires sont des vrais témoins. Cette expérience emprunte des chemins différenciés, comme je l'ai annoncé depuis que nous avons commencé à méditer sur Pâques. Et pendant cette période pascale, nous allons revisiter justement diverses expériences des disciples. Et chaque fois, nous relirons leur expérience unique et nous tenterons de dégager quelques enseignements utiles pour notre foi de disciples du ressuscité aujourd'hui. Car l'Écriture porte une parole apte à nous atteindre dans notre vocation la plus fondamentale et à nous donner une perspective et des possibilités originales pour notre identité, notre dignité et notre avenir. Je disais que les chemins de Pâques sont différenciés. Mais on peut s'interroger, quelle est la particularité de l'expérience de Pâques des disciples d'Emmaüs dont nous venons d'entendre le récit? Et qu'est-ce que cela apporte à notre vécu de témoin du ressuscité ici et maintenant? L'expérience des disciples d'Emmaüs est passée par quatre étapes que nous avons découvertes dans le texte lu ce matin. La première étape, celle de prendre conscience de la réalité telle qu'elle se présente. Deuxième étape, verbaliser, c'est-à-dire mettre les mots sur ce qu'ils pensent et ressentent. Troisième étape, s'ouvrir à une parole autre, accueillir la parole de Dieu, qui est le tout autre. Quatrième étape, être transformé afin de manifester la Pâque, c'est-à-dire le passage d'une vie à l'autre. Eh bien, prenons ces quatre étapes les unes après les autres. La première étape est celle, disais-je, qui consiste à prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Les deux disciples qui s'en retournent dans leur village reconnaissent que Jésus, avec lequel ils avaient fait un bout de chemin, est mort. Et ce qui est troublant pour eux, aux hésitations du départ sur Jésus, s'était succédé la certitude qu'ils avaient le privilège d'être aux côtés de celui dont les prophètes avaient annoncé la venue, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu venu libérer Israël. Pendant les 3 ans du ministère terrestre de Jésus, ils ont tout quitté, se sont attachés à lui. C'était en fait pour eux leur projet de vie. Tous leurs espoirs s'étaient alors effondrés lorsque le jeudi saint, leur maître, leur Messie, est arrêté, frappé, et puis le vendredi saint, il est crucifié sans qu'il ne réussisse à retourner la situation. Les disciples prenaient conscience que Jésus était bel et bien mort. Les scribes et les pharisiens avaient gagné. L'obscurité avait envahi leur cœur. Ils étaient désorientés. Plus que cela, ils étaient effondrés. Tout cet espoir de libération des opprimés et de la venue d'un monde nouveau s'en est allé en fumée. Ne disent-ils pas eux-mêmes, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » celui qui inaugurait le royaume de Dieu n'a pas été arraché aux mains de ses ennemis. La haine, les intérêts opposés et conjugués ont bien éliminé Jésus. Les moqueurs semblaient avoir raison, et cette parole des psaumes devenait réalité pour eux. Et je cite cette parole du psaume 44 au verset 14. « Tu fais de nous l'insulte de nos voisins et la risée de notre entourage. » Les disciples sont conscients que les jeux sont faits. Ils ne savent pas trop quoi penser après ce qui est arrivé à leur maître Jésus de Nazareth. Mais leur doute ne les entraîne ni au renoncement, ni au silence. Voilà cette première étape. Mais déjà, nous pouvons nous poser la question, que pourrions-nous retenir comme enseignement de cette première étape sur le chemin de Pâques maintenant. Frères et sœurs, l'attitude des disciples est une invitation à avoir les pieds sur terre, à apprendre à regarder la réalité en face, à ne pas vivre dans le déni de la réalité, à appeler un chat un chat. Cela ne sert à rien d'ignorer que, tout chrétien que je suis invité à conjuguer au présent la réalité que je vis. Ainsi, je peux dire, je suis malade, je suis gravement malade, je suis dans la tempête d'un divorce dévastateur, ma famille est menacée d'éclatement, j'ai échoué dans tel domaine de ma vie, je suis ébranlé dans ma foi par telle ou telle autre situation. Il y a un écart entre ce que je proclame et ce que je vis en réalité. La peur m'habite en ce moment. Le doute est mon compagnon ces derniers temps. Je ne comprends pas pourquoi Dieu est silencieux. Il me semble lointain. Je suis fragile, vulnérable, incompris. Et nous pouvons ainsi allonger la liste des réalités que nous vivons. La lucidité nous appelle à prendre conscience des paradoxes, des dysfonctionnements, des anomalies de la réalité. Nous vivons notre foi dans un monde réel, dans un contexte précis et actuel, et non dans un monde imaginaire, ni au siècle passé, mais ici et maintenant. C'est la première étape sur le chemin de Pâques. La deuxième étape des disciples d'Emmaüs sur le chemin de Pâques consiste à verbaliser, c'est-à-dire à mettre les mots sur ce qu'ils vivent. Le récit nous dit que les disciples qui s'en retournent dans leur village d'Emmaüs parlent en chemin. Lorsqu'un inconnu se joint à eux et leur pose une question, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils ne demandent pas mieux que de partager avec lui l'histoire de cet homme qu'ils ont aimé et qu'ils continuent à aimer. Ils mettent les mots sur ce qu'ils pensent et ressentent. Au moyen de la parole, ils font sortir ce qui est enfoui en eux, le partage entre eux, à savoir la tristesse, la douleur, l'incompréhensible, le choc, etc. Une chose est sûre, la parole circule, le sac se vide, il se décharge. Et que pourrions-nous en tirer maintenant? Savez-vous, frères et sœurs, qu'une douleur enfouie, une souffrance tue, une omerta que l'on s'impose peuvent être une bombe destructrice d'une vie? Avez-vous observé le nombre de fois où Dieu, lui qui est omniscient, c'est-à-dire qui connaît tout, pose des questions aux humains dans la Bible? Il donne à l'humain l'occasion de s'exprimer, l'occasion de vider son sac. À Caïn, par exemple, qui est furieux, Dieu demande « Fais-tu bien de te fâcher ?» À Élie, qui est déprimé, il demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Au paralytique de la piscine de Bethesda, qui est là depuis 38 ans, paralysé, Jésus demande « Veux-tu être guéri ?» Frères et sœurs en Christ, nous sommes des êtres de relation, des êtres de parole. De ce fait, le Seigneur nous invite à lui exposer nos pensées et notre ressenti le plus authentiquement possible. une charge émotionnelle très lourde, enfouie, tue, peut être destructrice pour une vie. L'invitation est à l'honnêteté et à l'authenticité. Puissions-nous entrer dans la plus grande école de la prière que sont les psaumes et y apprendre comment le psalmiste est vrai, authentique devant Dieu. Colère, déception, incompréhension, fragilité, appel au secours, imprécation et autres états d'âme sont exprimés et libérés devant le Seigneur Dieu. Troisième étape, être prêt à accueillir une parole autre qui vient du tout autre de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de partager sa souffrance, son deuil, sa déception, son incompréhension, de les ruminer, de s'en nourrir constamment, mais aussi d'être prêt à accueillir une parole autre, la parole du tout autre, la parole de Dieu. Les disciples d'Emmaüs ont fait place dans leur douleur à la parole de cet inconnu, qui n'est autre que le Seigneur lui-même. Et le récit nous dit, « Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. » Jésus fait deux choses dans ce compagnonnage. La première, après les avoir écoutés, il les ramène à l'Écriture, révélation de Dieu aux hommes, comme source de compréhension, de relecture de la réalité et comme source de la foi. La deuxième chose que Jésus accomplit ici, il leur donne une clé d'interprétation, une sorte d'herméneutique de l'Écriture. Christ est le centre, le sommet de la révélation de Dieu aux hommes. Toute l'Écriture parle de lui, l'annonce dans le côté glorieux comme dans le côté dramatique, sombre, où il n'attire pas les regards, où il se fait discret. Ô insensé, ô homme sans intelligence. Parole qui semble très dure. Notons que ces hommes sont des juifs pieux, versés dans les Écritures qu'ils lisent du reste depuis leur enfance. Mais le diagnostic de Jésus est sans appel, homme sans intelligence. Jésus révèle qu'il leur manque quelque chose pour comprendre le sens profond des Écritures. Il leur manque cette pénétration profonde pour saisir les desseins de Dieu et les promesses qu'il a faites par les prophètes annonçant un Messie crucifié qui ensuite allait entrer dans sa gloire. Leur intelligence est limitée et les rend lents à comprendre Jésus, lui qui a l'esprit sans mesure et qui en est rempli, n'est-il pas en train de mettre en évidence la nécessité du Saint-Esprit pour que nous soyons aidés à comprendre les Écritures? Quoique discret, il n'en demeure pas moins réel, ce Saint-Esprit. Et Jésus poursuit donc en leur faisant écouter cette parole qui vient. D'ailleurs, il fallait que le Christ souffrît d'abord pour arriver ensuite à la gloire. L'homme ne pouvait être sauvé que par ses souffrances et par cette mort. L'amour éternel de Dieu qui voulait le salut de l'homme a voulu aussi l'immense dévouement du Sauveur indispensable à l'accomplissement de ce salut. La véritable interprétation fait de Christ le centre. Christ, le grand centre d'où rayonne toute la gloire. Sondez les Écritures car elles rendent témoignage de moi, disait Jésus dans l'évangile de Jean. Et qu'en pourrions-nous dégager comme enseignement ici et maintenant? Eh bien, le Seigneur nous invite à redonner toute sa place à l'Écriture, à la parole de Dieu dans l'Église. Il peut sembler évident qu'il doit en être ainsi dans les Églises. Pas si sûr. Il nous faut chaque fois interroger ces évidences et nous nous rendrons bien compte que la réalité en est bien éloignée. Considérez à cet effet l'offre faite par les églises aux membres pour lire, étudier ou prier la parole de Dieu. Bien souvent, on peine à réunir les gens. On peut espérer qu'individuellement, les Écritures sont le pain quotidien des fidèles. La réalité, c'est que entre l'espoir et la réalité, on peut bien être surpris. Dans tous les cas, il faut relever sans cesse le défi de remettre tout à nouveau la lecture, l'étude et la méditation de l'Écriture à l'honneur dans l'Église et dans les familles. Autre chose que relève le Seigneur Jésus, c'est qu'on peut lire, étudier, méditer les Écritures et ne rien comprendre au message de Dieu, et même se perdre dans des lectures savantes. Il faut une intelligence spirituelle. Pour cela, il faut approcher les Écritures avec beaucoup d'humilité, en demandant de l'aide au Saint-Esprit. Notre lecture, notre étude et notre méditation a besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. Une approche qui nous fait d'abord chercher à mieux connaître Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et pas seulement rechercher une bénédiction par-ci, une parole apaisante par-là, mais toute l'Écriture, avec ses rugosités, ses aspérités, son tranchant et ses exigences. Pour utiliser une image, Jésus est comme le diamant de grand prix qui se trouve dans un champ où on nous invite à travailler. Le but recherché, c'est le trouver lui, lui qui est ce trésor. Oui, en travaillant, on peut tomber sur quelques bonnes petites affaires, des paroles encourageantes, des promesses et quelques bénédictions. Mais si on s'arrête à ce niveau, c'est dommage parce qu'on n'a pas trouvé le diamant de grand prix. Jésus donne une clé de lecture. Recherchez le Christ dans l'Écriture. Ouvrir la Bible avec un appétit centré sur le Christ pour apprendre à mieux le connaître, lui, le diamant de grand prix. Il ne faut pas que nous nous réjouissions trop vite quant aux statistiques sur les ventes des Bibles dans le monde. Sont-elles réellement lues? Sont-elles bien lues? Il ne faut pas que notre vie ne soit remplie que de nous-mêmes, de nos souffrances, de notre douleur. Il faut laisser un espace où Dieu peut faire résonner sa parole, une parole qui nous ouvre à une autre dimension, une parole qui peut nous introduire au mystère de Dieu, une parole qui peut nous bousculer, nous déstabiliser, nous enseigner, nous corriger, nous évangéliser, nous déplacer ou nous inviter à déplacer les lignes dans nos vies. Une parole qui nous invite parfois à changer de paradigme, une parole, la Bible appelle cela la conversion, une parole qui résiste à la nôtre, une parole qui guérit, qui oriente ou réoriente, une parole qui réchauffe. Dans l'expérience des disciples, quand Jésus expliquait la parole sur le chemin, ils ont dit « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait ?» Oui, c'est le travail qu'accomplit le Saint-Esprit, il réchauffe. Le Saint-Esprit est discret, mais non moins présent, car il est agissant. Dernière étape sur le chemin de Pâques en ce qui concerne les disciples d'Emmaüs, c'est qu'ils sont transformés et ils manifestent la Pâque, c'est-à-dire le passage d'une vie à l'autre. Lorsqu'à la fraction du pain, les disciples reconnaissent que leur hôte n'est autre que le Seigneur ressuscité, ils sont transformés, dynamisés, joyeux et s'en retournent immédiatement à Jérusalem, porteurs d'une bonne nouvelle aux autres. Rien à ce moment-là ne peut les arrêter. Ils ont comme des ailes à leurs jambes. Ils sont porteurs d'une bonne nouvelle à répandre, une bonne nouvelle à annoncer. C'est leur expérience de Pâques. Frères et sœurs, en terminant, Pâques, c'est le passage d'un lieu de mort, quelle qu'en soit la forme, vers un lieu de vie. Pâques, pour les disciples d'Emmaüs, c'est le passage du désespoir à la jubilation, de l'ancien vers le nouveau, de l'habitude, du répétitif, de l'inertie, vers la nouveauté de vie proposée par Jésus-Christ. L'existence tout entière est une succession de Pâques, de mort et de résurrection. Prendre conscience que sa vie tout entière, dans toutes ses dimensions, est une marche vers Pâques, est une source d'une joie profonde, enracinée au cœur de l'être. Le chemin de Pâques ou la résurrection, c'est l'œuvre de Dieu qui nous fait passer de la mort à la vie. La résurrection, c'est le surgissement du Seigneur de la vie dans nos vies et rupture avec nos routines, routines de la culpabilité, de toutes les formes d'esclavage, de la mentalité, de la maladie, de la pauvreté matérielle et spirituelle, des prisons, des complexes de tout genre, de la fatalité, des actions et gestes du genre « on a toujours fait comme ça ». C'est le surgissement de Dieu dans nos vies alors que nous sommes en marche. Il vient déranger l'ordre établi, tout cela fait désordre. C'est le renversement de l'ordre habituel. Les femmes ne s'attendaient pas à voir la pierre rouler quand elles allaient au tombeau. Pâques signale qu'à partir de toute situation, même celle qui est bloquée, il y a moyen de repartir et de recommencer. C'est le secret de la foi en Christ ressuscité. Si nous ne portons pas au cœur ce secret vivant, obstiné, inventif, nous tournerons toujours en rond dans tous nos labyrinthes. Comme je désire que chacun fasse chaque jour l'expérience de la Pâque. Plus qu'un désir, c'est ma prière pour chacun de nous. Ô Seigneur, viens-nous en aide. Amen. Et maintenant, je vous invite à confesser notre foi ensemble. Je crois en Dieu Père, qui nous envoie au-devant des autres pour annoncer que la vie a vaincu la mort et que l'amour triomphera. Je crois en Jésus-Christ, qui nous rejoint sur la route et se laisse reconnaître chaque fois que nous partageons le pain et chaque fois que nous sommes rassemblés en son nom. Je crois en l'Esprit Saint, qui aujourd'hui encore nous donne la force de prendre le chemin d'Emmaüs. Il nous aide à comprendre les Écritures et rend nos cœurs tout brûlants. Je crois à la Sainte Église universelle, lorsque dans des moments de découragement et d'obscurité, elle nous aide à retrouver la joie et des raisons de vivre. Voilà ce que nous croyons.
Je vous invite maintenant à nous unir dans la prière d'intercession.
Nous te louons et te glorifions, Père, pour la victoire du Christ sur la mort. C'est un signe de ta victoire sur toutes les morts. Nous nous rappelons que le tombeau de Jésus était scellé au matin de Pâques. Il a été trouvé vide, signe de sa victoire sur toute mort. Il a brisé les liens de nos servitudes. L'humanité est transfigurée par son amour. Dans l'attente de la pleine victoire, nous nous émerveillons du don d'un tel Sauveur. Père, que l'Esprit de Jésus éclaire pour nous les Écritures chaque fois que nous les lisons, chaque fois que nous les étudions et les prions. Que le Saint-Esprit éclaire pour tes enfants le sens et la portée du geste de la fraction du pain. Que la vitalité de son esprit fasse de nous des êtres nouveaux, vainqueurs quand le découragement nous assaille, confiants quand le doute nous secoue, prêts à risquer notre vie jour après jour, prêts à toujours recommencer. Nous te prions, Seigneur, pour que Pâques soit pour nous une réalité du quotidien et l'occasion d'un nouveau départ vers de nouveaux progrès sur le chemin ouvert par Jésus. Père, nous te prions pour notre monde aujourd'hui après l'irruption du Covid-19. Tu vois tous les dégâts qu'il a causés et qu'il cause encore. Nous te prions pour que dans le désarroi qui touche nos contemporains, tu leur donnes le réflexe de se tourner vers toi. Crée une grande faim et soif de vérité, de vie qui trouve son sens en toi, notre Créateur et notre Sauveur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont atteints par cette maladie et pour ceux qui souffrent aussi d'autres pathologies, afin qu'ils opèrent le passage de cet état au soulagement et à la guérison. Nous te prions pour le personnel soignant, afin que tu le protèges et que tu le renouvelles physiquement et intérieurement. Nous te prions pour les autorités, afin qu'elles reçoivent de toi la sagesse pour bien gérer cette crise. Et plus près de nous, nous te prions aussi pour notre sœur Jeannette et pour la maman de Kaindo, pour Evelyne, pour Odette, Annie, afin que tu leur accordes la grâce de vivre Pâques en passant de leur état de malade à celui de guéri. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Garde-nous du mal. À toi seul appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, un petit moment d'annonce. Il n'y en a pas beaucoup, juste deux. Un encouragement à maintenir constante notre intercession les uns envers les autres, mais aussi en faveur des malades, des isolés, de tous ceux qui sont endeuillés, du personnel soignant et des autorités. N'oublions pas de soutenir financièrement l'Église au moyen de notre offrande que nous allons apporter par virement bancaire. Et merci pour tout ce que vous faites en ce moment, les uns pour les autres, à la gloire de notre Père. Et là, nous allons recevoir la bénédiction, après laquelle nous chanterons « Que la grâce de Dieu soit sur toi, arc-en-ciel 882 ». Mais avant cela, une exhortation. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui et vous aurez part à sa gloire. Allez dans la joie, la paix et l'amour du Christ vivant. Que l'amour du Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Et nous chantons ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
grâce d'être seul sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Que soit tout son pardon et sa bénédiction. Soit tout son pardon et sa bénédiction.